Au quotidien, avec Hélène Denis.
Février, j'espère que vous allez bien. On est en 2026 toujours. Ça va, Mathieu?
Vous m'avez mis un doute, là.
Ah oui, pour vrai, là.
Pour 2026.
Bon, mais je peux vous confirmer que Acouphènes Québec lance la première semaine nationale de sensibilisation. Je suis très, très solidaire à ceux et celles qui souffrent d'acouphènes parce que ça devient... très difficile de vivre avec ces bruits incessants dans nos oreilles. Ça peut arriver quand on va voir des spectacles où le son est extrêmement fort, mais à un moment donné, ça part. Mais quand ça part pas, c'est assez paniquant. Alors, on s'est inspiré du modèle de la Tinnitus Awareness Week, une initiative qui est internationale qui vise à sensibiliser le public aux acouphènes, aux défis qu'ils engendrent, mais aussi aux progrès de la recherche. La toute première édition québécoise, donc, de la Semaine nationale de sensibilisation aux acouphènes a lieu maintenant, depuis hier jusqu'au 9 février et propose une série de visioconférences, grand public et groupes de discussion sous le thème « Mieux comprendre pour mieux vivre avec les acouphènes ». Au Québec seulement, on estime à 800 000 le nombre de personnes qui vivent avec des acouphènes, soit une personne sur 10 et 1 à 2 % de la population générale serait touchée par une forme sévère affectant gravement leur qualité de vie et celle de leur entourage. Plus de 50 % des personnes âgées de 65 ans et plus vivent avec une déficience auditive. Et Acouphènes Québec s'inquiète de la prévalence liée au comportement à risque chez les jeunes qui écoutent la musique habituellement avec un volume assez élevé, pour ne pas dire tonitruant. Et en collaboration avec un groupe d'experts, Acouphènes Québec a développé une boîte à outils contenant 6 fiches informatives qui sont disponibles gratuitement sur le site Internet www.acouphènes, qui s'appelle A-C-O-U-P-H-E-N-E-S, au pluriel, québec.org, www.acouphènesquebec.org. Bonjour, André.
Bonjour, Hélène.
André Lacombe qui est là pour une chronique vin aujourd'hui.
Tout à fait. C'est bientôt la Saint-Valentin. Hein?
Ben oui, toi. Hein?
Dans 11 jours.
Dans 11 jours.
Donc, je vais vous donner des idées ce matin avec une sélection de vins en blanc et en rouge.
Excellente idée, André. On a hâte. On va prendre des notes parce que vous avez toujours de très bonnes suggestions pour nous. Bon, alors, après la chronique d'André, un petit peu plus tard, nous aurons la chronique économie avec Michel Poitvin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, qui va nous parler de la Coupe du monde de soccer, pas du Super Bowl, la Coupe du monde de soccer qui aura lieu l'été prochain, à partir de juin. Là, on va avoir encore un pied dans le printemps parce que ça commence au début juin jusqu'à la mi-juillet environ. Et puis, il s'est intéressé aux données d'un article du Globe and Mail sur la Coupe du monde de soccer qui aura lieu donc en Amérique du Nord. On aura plus de détails avec lui un peu plus tard au cours de cette émission, dans une demi-heure environ. Nous parlerons aussi de la série documentaire « Touché » qui s'attaque à un sujet tabou, la sexualité des personnes en situation de handicap. Et c'est une série qu'on pourra découvrir demain sur Ami Télé. J'aurai le plaisir d'en parler avec la réalisatrice de Touché. Elle s'appelle Vanessa Boisset. Et nous aurons la chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qui, elle, a lu 2 romans graphiques pour nous. Alors voilà le menu qui est quand même assez copieux en ce mardi 3 février. Le 3 fait le mois. On l'espère, hein, parce que c'est plus doux et c'est très beau aujourd'hui. On y va avec une chanson, justement, qui porte très bien son titre, « Une journée parfaite » par Dumas.
J'avais la carte
une journée parfaite du mois. Depuis maintenant 2 mois, la vague de rivalité passionnée déferle sur le Québec, le Canada et un petit peu partout à travers le monde. Et ça donne une visibilité incroyable à la scène musicale québécoise. Une journée parfaite de Dumas, qui est sortie il y a maintenant 12 ans, connaît une deuxième vie. Un succès incroyable, car la chanson fait partie de la liste musicale de la série Rivalité passionnée. Je ne sais pas si vous l'avez regardée sur le hockey, cette histoire de passion entre deux joueurs qui sont des adversaires, mais qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et il y a plusieurs personnes qui tombent sous le charme de cette série et sous le charme de cette chanson. J'entendais récemment que sur Spotify, cette chanson de Dumas est écoutée par au moins 2 millions de personnes jusqu'à maintenant. Alors, c'est assez impressionnant. Maintenant, on y va avec les unes des journaux. Une autre histoire extrêmement triste, un autre féminicide présumé, ici déjà un 6e cette année. Un homme aurait tué sa conjointe avant de se donner la mort à Brossard. C'est Chloé Bourquin, Daphné Cameron et Marie-Ève Maurras qui signent l'article, ainsi que Martin Chamberlain. Pour les photos, Brossard a été secoué par un nouveau féminicide présumé qui serait le 6e au Québec en un mois. Un homme aurait tué sa conjointe avant de se donner la mort. Une fois encore, l'homme avait été violent envers sa femme dans le passé. Marco Amilcar Diaz Lopez, 56 ans, et Sonia Maricela González Velasquez, 54 ans, vivaient dans une résidence située sur l'avenue Bienvenue à Brossard. Tous deux ont été retrouvés sans vie à leur domicile dans la nuit de dimanche à lundi. Leur corps présentait des marques de blessures possiblement faites par arme blanche, a souligné l'agente Jacqueline Pierre, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Selon nos informations, la théorie la plus plausible serait que l'homme ait tué sa conjointe avant de mettre fin à ses jours. Tout ça est tragique et infiniment triste. En quête de solutions, nous l'avons fait, point d'exclamation, une semaine sans écran, notre chroniqueur Philippe Mercure et sa famille s'y sont risqués. Et sa chronique se termine ainsi. Je vous lis les trois derniers paragraphes. Notre résolution au terme de cette semaine de déconnexion. Chaque fois qu'on consultera un appareil, on le fera désormais avec une intention claire et non par automatisme ou par ennui. Relaxer 15 minutes en regardant des shorts sur YouTube, ce n'est pas la fin du monde si on choisit délibérément de le faire en définissant l'objectif et la durée d'avance. En bref, on s'est promis de reprendre le contrôle sur ces foutues machines et d'aller patiner plus souvent sur le Mont-Royal. Il y a également Chantal Guy qui parle du fait qu'elle est droguée, comme bien des gens, à cause de tous ces écrans et surtout de son téléphone cellulaire. Elle écrit à l'époque où tout le monde fumait, personne ne sentait le tabac parce que tout le monde sentait le tabac. Même les non-fumeurs baignaient dans la fumée de cigarettes et dans une culture où elle était admise absolument partout. Dans le dossier de mes collègues Camille Dauphinet-Pelletier et Tristan Péloquin sur notre dépendance aux écrans et les solutions pour y remédier, la professeure de psychoéducation Linda S. Pagani dit ceci d'important. La première chose qu'il faut qu'on accepte, c'est qu'on est tous drogués. Et le problème avec ça, c'est que c'est difficile de voir qu'on est drogué si tout le monde prend la même drogue. J'aurais envie d'ajouter, seul un drogué peut reconnaître un autre drogué. J'ai eu mon premier téléphone intelligent en 2010, 3 ans après l'apparition de l'iPhone, mais je voyais déjà autour de moi la dépendance s'installer, les mêmes gestes répétitifs et inconscients que les fumeurs à tâter leur briquet dans leur poche. Si vous êtes incapable de ne pas aller vérifier votre téléphone toutes les 20 minutes, vous êtes sérieusement accro et ça se voit. Je n'arrive pas à oublier, lors d'un gros show, que cette mère d'iPhone pendant une bonne toune était autrefois des lighters. Alors, c'est vraiment un dossier absolument passionnant là, qu'on peut lire dans la presse plus depuis samedi dernier. À la une du Journal de Montréal, Marois Risky, de retour à Québec, elle a dénoncé dans sa défense 5 fling-flang au PLQ. C'est à lire donc aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Marois Risky, qui n'a pas congédié l'ex-directrice de cabinet de l'opposition officielle Geneviève Hinze sur un coup de tête. Elle lui reproche des mensonges et de l'insubordination répétée et affirme même avoir suivi la recommandation du Service des ressources humaines de l'Assemblée nationale avant de mettre fin à son emploi en novembre dernier. Geneviève Hinze, de son côté, dit avoir été congédiée illégalement. Et puis, à la une du Devoir, on a rencontré Monsieur Carman, Lionel Carman, politique québécoise, l'ex-ministre responsable des services sociaux et député caquiste, Lionel Carman, qui raconte les coulisses de son départ. En entrevue au Devoir, l'ex-ministre qui a démissionné en octobre dernier revient sur la loi sur les médecins qui était incompréhensible. Il était dans une situation intenable, forcé de défendre un projet de loi sur les médecins qui n'avait pas de bon sens. Ce sont ses citations à lui, à Monsieur Carman.
De l'âge coule sur ma peau. Un paysage ambigu naît devant moi, comme un simple coup de pinceau. Ce n'est pas que je ne suis plus, mais d'un seul pas, je t'ai perdu. Autour de moi, le temps déchu, tapisse l'étoile en perte de vue. Et surtout, quand tu es là-bas, et que moi, je reste ici, comment faire pour être ensemble jusqu'à l'infini? J'observe jaillir dans le miroir des rêves sans matelot. Plus je regarde dans les phares, ce sont comme tes yeux qui brillent trop. Et surtout quand je suis là-bas et que toi tu restes ici, comment faire pour être ensemble jusqu'à l'infini? Les mille et une copies de moi parallèles, quelle danse, je les salue. Les effluves de l'âge coulent sur ma peau, comme des fleurs qui ne sèchent plus, comme un navire sans sa voile, à l'aube d'une quête sans repos. Mais surtout quand tu es là-bas, et que moi je reste ici, comment faire pour être ensemble jusqu'à l'infini?
La chanson « Comme un sablier » du groupe De Flore.
Merci, Mathieu. Chronique 20 avec vous, André Lacombe. André, vous y allez avec les Blancs pour commencer.
Oui, en commençant par l'apéro, Hélène.
Ben oui.
Quelque chose de différent. Els Vinieron's Juerna Penedès 2024.
Un vin français.
Je pourrais vous l'épeler tantôt, c'est un vin catalan. Un vin blanc nature catalan, vraiment unique en son genre. Hein. Ce qui frappe au début, c'est cette espèce de nez de pomme mûre, légèrement oxydé, mais ce n'est pas du tout un défaut. Ce n'est pas un cidre non plus, c'est vraiment un vin, même si ça sent un peu la pomme. C'est ce qu'on appelle une oxydation, c'est volontaire, c'est maîtrisé. On retrouve ça dans les vins comme le Xérès, par exemple. Ça permet de développer justement des arômes de pomme et de noix. Alors, mais on n'est pas dans un xérès ici, là. On est vraiment dans un vin. On a, des, en plus de la pomme, des notes d'amande, de fleurs blanches, avec une petite touche d'amertume. Moi, je comparerais ça au sel de céleri. Faut y goûter, oui. Voir, là, mais oui, il y a quelque chose qui rappelle ça. C'est un teneur très raisonnable en alcool, en 10,5%, donc ça ne cogne pas. En servir en apéro avec une planche de charcuterie puis un fromage salé comme le manchego, c'est très, très agréable. À un prix, somme toute raisonnable, $23.40 la bouteille.
Oui, vous parliez, alors, André, d'un vin tout indiqué pour l'apéro, mais lorsque vous avez parlé des notes d'amande, de pomme, je me disais peut-être qu'avec une pointe de tarte aux pommes avec du fromage, non? Ça ne marcherait pas?
La petite amertume, moi, je ne le servirais pas avec un dessert. Okay. Je trouve que ça va mieux vraiment
bon, on se concentre
l'apéro.
Pour l'apéro avec personnellement, ce vin-là. Comment on l'appelle déjà?
Els Vignerons, Vignerons, Juarana, Luerna, Penedès, 2024.
Merci beaucoup.
On poursuit avec un excellent rapport qualité-prix.
Ah oui? Oui? On aime ça, ça.
Un autre vin espagnol de la région de Valence, donc voisine de la Catalogne, le Aran León Blé Valencia, 2023. Ce qu'on appelle blé, en passant, c'est le nom qu'on donne aux chrysanthèmes des blés, qui est une plante indigène dans ce coin de pays. On appelle aussi la marguerite dorée. Très joli. Mm-hmm. Et c'est planté entre les rangs de vignes.
Ah,
ça aide
oui.
la vigne, semble-t-il. Ça vit en symbiose avec la vigne. On a ici un vin sec bio, beaucoup plus classique, légèrement citronné, avec des notes florales et fruitées. Même, je dirais, mielé. Ça donne une profondeur au vin. C'est très agréable. C'est assez léger, là aussi. Taux d'alcool à 12%, donc très raisonnable. Parfait avec les poissons et les fruits de mer, tant que les assaisonnements demeurent eux aussi légers, donc pas de tomates, pas d'épices fortes. $14.20. C'est une très bonne affaire. Très bonne affaire.
Pas trop, le taux d'alcool raisonnable, comme vous disiez, et le prix également.
Voilà.
Un vin français maintenant.
Oui, le Touraine 2024 de la maison François Chidène. Sauvignon blanc du Val-de-Loire, bien sec, tout ce qu'il y a de plus typique. On est dans les agrumes, le citron confit sur une trame minérale. Et ici, une petite touche d'estragon. Ça donne son petit côté distinctif. Oui, c'est très agréable.
Parce que c'est très odorant, l'estragon. Oui,
oui.
Mais là, ça ne vient pas masquer le goût.
Non, pas du tout. Non, c'est bien balancé, tout ça. Pensez poulet, poisson, fruits de mer, tout ce qui se prend bien avec un blanc. Un prix raisonnable aussi, je dirais pour un vin français, en tout cas $22.50.
Il vaut le détour?
Oui.
Et le coût?
Oui, tout à fait. Et si vous voulez quelque chose de plus unique pour la Saint-Valentin, vous voulez vous faire plaisir, alors essayez le Bourgogne Les Ursulines 2024 de la maison Jean-Claude Boisset, 100% chardonnay. On est ici sur un vin plus complexe. Hein. On a un élevage en fût pendant 9 mois, un peu plus rare dans les blancs que dans les rouges. Ça lui donne une touche subtilement boisée. Ce n'est pas envahi de boisé comme les Californiens. Mais aussi des arômes complexes. On est dans les fruits à chair jaune, comme le melon, de fleurs blanches, d'amandes grillées, associées à des notes plus fraîches d'agrumes. Le tout sans lourdeur, c'est bien balancé. On a une belle acidité, on a même des notes minérales. Je dirais un vin de caractère qui va bien accompagner des plats en sauce ou des volailles plus goûteuses, comme la pintade, par exemple. Ou des plats un peu plus épicés, comme pourquoi pas un poulet au beurre, un peu relevé, là. Ça irait bien avec ça. $27.10. Alors, c'est plus cher, oui, mais le rapport qualité-prix est là, définitivement.
Poulet au beurre ou pintade pour la Saint-Valentin avec un Bourgogne Les Ursulines 2024.
Oui.
On achète. Allez-y maintenant, André, avec une sélection de vins rouges.
Un grand classique italien de la région de Vérone, le Massi Campofiorin.
Ah oui. On ne dit pas Massi, on dit Massi?
Je pense que c'est peut-être Massi, vous avez peut-être raison.
Mais je me pose la question.
Là. Fort possible. C'est peut-être moi qui me trompe ici. Moi, je l'appelle toujours Massi. Massi beaucoup, Hélène. Je l'ai goûté dernièrement, regoûté, je dirais, toujours aussi bon. Ça fait pas mal l'unanimité, ce vin-là. Des notes boisées, un peu épicées, des arômes puis des saveurs de fruits compotés, hein, à mi-chemin entre la confiture et le fruit frais. Une touche d'acidité. Ça fait en sorte que le vin est présent en bouche, oui, mais il n'est pas trop costaud, il n'est pas trop lourd. Ça fait pas mal l'unanimité autour de la table, un vin comme ça. Et c'est polyvalent. Je n'hésiterais pas, moi, à le servir autant avec des viandes rouges qu'avec une volaille bien relevée. Pensez, par exemple, à un poulet aux épices marocaines avec le curcuma, le cumin, le paprika. Ou, bien sûr, les plats italiens en sauce. Mm-hmm. Évidemment, c'est un vin italien.
C'est pour ça qu'il est toujours populaire, parce qu'on peut le boire avec
toutes sortes de choses. Puis c'est accessible, si je peux dire, au niveau de la palette de goût, de saveur.
Il a augmenté quand même.
Oui, à 24,80, tous les vins ont augmenté. Les aubaines se font de plus en plus rares. Mais je vous dirais que c'est une valeur sûre, à 24,80 la bouteille. Une autre aubaine, là, c'est vraiment une aubaine, là, du Chili. Le Mapu, ou Mapu, M-A-P-U, de la célèbre maison française Rothschild, présente au Chili depuis 30 ans, hein, quand même, Rothschild. Un mélange du cépage emblématique du Chili, le Carmener, avec du Cabernet Sauvignon. Un résultat typique des vins chiliens, là. Donc, les arômes de fruits noirs, le cassis, la mûre, les notes épicées, le côté végétal un peu eucalyptus. Je dirais aussi une touche d'acidité qu'on ne retrouve pas dans tous les vins chiliens, mais qui permettent d'enlever un peu de lourdeur, parce que c'est quand même un vin costaud, hein? C'est un vin chaleureux. Ça va bien l'accompagner, par exemple, des burgers, des saucisses, tous les plats de viande rouge.
L'agneau.
L'agneau, tout à fait.
Des couscous.
Ou des couscous avec des merguez. Mmh. Ça serait très bien avec ça. Ou des fromages moyens ou forts. 11,95 $.
Ah, mais là, c'est une vraie aubaine
ici. Oui, ça, c'est vraiment difficile de demander mieux à ce prix-là. On n'hésite pas. Par contre, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous aimez des rouges
et
bien
faire
charpentés.
Plaisir. Se faire plaisir et faire plaisir à la Saint-Valentin, il faut penser à l'autre quand même.
Absolument. Donc, le « vous » est inclusif. C'est le « vous » de politesse et le « vous » collectif.
Oui, oui, oui.
Alors, le Médoc Château Ramaphore. Je crois en avoir déjà parlé ici, mais il y a fort longtemps.
Il y a Ramaphore longtemps.
Comment?
Non, je fais de l'esprit de bottine ce matin. Il y a Ramaphore longtemps.
Ah, il y a Ramaphore longtemps de ça. On est dans le Merlot et le Cabernet Sauvignon, donc typique du Médoc. Un vin complexe, là, fruits noirs, prunes violettes, arômes de tabac, notes boisées, même de sous-bois. Je fais une parenthèse ici. Quand on parle de sous-bois, là, imaginez une promenade dans les bois après la pluie en été. Vous
ah
avez
oui,
tout
cette
le
odeur.
Côté humus résineux.
Le pétrichor.
Ah, Mathieu,
c'est pétrichor. J'ai jamais entendu ça.
Le pétrichor, c'est cette odeur-là. Alors, un mot de plus dans notre vocabulaire.
Oui, absolument. Je suis content de l'entendre. Il y a des arômes qui rappellent ça. Avec des tanins souples et soyeux. C'est excellent. Moi, je dirais, pour la Saint-Valentin, souvent, la fondue chinoise, c'est un grand classique. Alors, si vous êtes amateur de fondue chinoise avec de la viande de gibier, par exemple, ça irait bien avec ça, vraiment. Souvent, ce genre de vin-là, c'est maintenant au-dessus de 30 $, hein? Eh bien non, c'est 26,10 $ la bouteille.
Bon, alors c'est une autre aubaine, entre guillemets.
Qualité-prix, excellent.
Un Médoc, le Château Ramaphore, FORT. Et maintenant, on passe au Beaujolais.
Oui, bien c'est ça. Si vous voulez quelque chose de plus léger avec votre fondue, parce que vous aimez le poulet, les fruits de mer avec la fondue, c'est très bon aussi. Le Beaujolais griotte. Vous savez, les griottes, les petites cerises acidulées un peu, là. Alors, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle comme ça, parce qu'on a ces arômes et ces saveurs de cerises, mais aussi de framboises. Donc, c'est tout en fraîcheur et en fruité. Et ça se marie bien avec plusieurs mets, ce Beaujolais griotte. J'ai oublié de dire du vignoble Pierre-Marie Chermette, parce que le nom est bien en évidence sur la bouteille. C'est quand même un vin qui a de la profondeur. On a des notes anisées, donc le côté réglisse un peu. Des notes florales. Il y a de la matière en bouche aussi, ce qu'on appelle de la mâche dans le vocabulaire du vin. 23,10 $, donc quand même pas trop cher. Et on termine sur une dernière aubaine, un autre vin qui est facile à aimer, le Castillo de Montserrat Garnacha Carinenia.
Olé!
Olé! Vous aurez deviné que c'est en espagnol, bien sûr. Garnacha, c'est le nom du cépage Grenache en Espagne. C'est passe-partout, plus en rondeur que le Beaujolais, épices douces, mûres, violettes. Ça plaît à un large public, 11,95 $ la bouteille.
C'est jamais plate en se faire parler de vin, même si on n'en boit pas. C'est de la poésie
plate.
À chaque fois.
À chaque fois, ouais, j'essaye.
Ouais. La poésie pour les papilles, pour tout le cœur.
L'esprit.
Oui, joyeux Saint-Valentin, André.
Merci à vous aussi.
Est-ce que vous avez un vin en tête pour célébrer cette fête?
Un petit verre de Ramaphore.
Pourquoi pas?
Il y en a ma fort longtemps que je n'en ai pas bu.
Bon, ben finalement, vous ne l'avez pas haï, ma blague.
Ah, ben bon, l'esprit de bottine, ça délance.
Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, André. On se retrouve dans 2 semaines.
2 semaines.
Portez-vous bien.
Bye-bye.
Merci d'écouter Au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11 heures. À venir, la chronique économie avec Michel Poitvin et une conversation avec la réalisatrice Vanessa Boisset.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La chronique économie avec Michel Poitvin, qui est au bout du fil. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Ce matin, vous parlez de soccer, de la Coupe du monde de soccer qui aura lieu dans quelques mois, là, quand il va commencer à faire plus chaud, en fait.
Ben oui, je pensais que ça va peut-être nous réchauffer. Là. Évidemment, on s'éloigne du Super Bowl de la semaine prochaine puis des Olympiques qui commencent vendredi, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines si... Il y a des dimensions économiques intéressantes à souligner.
On n'est pas inquiet.
Mais pourquoi je vous parle de soccer ou de football là, pour les Européens? C'est qu'il y a eu un article intéressant dans le Globe and Mail qui a regardé le coût d'accueillir les matchs de la Coupe du monde. Alors, l'Amérique du Nord, là, il y avait eu une proposition Canada conjointe, Canada, États-Unis, Mexique, pour accueillir la Coupe du monde. Elle va avoir lieu au mois de... Ah, j'ai une typo dans mes notes, je pense.
Ben,
que
j'ai ici
19 juillet.
OK. Moi, la date que j'ai, c'est du 1er juin au 19 juillet.
Ben, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes, mais je pense que j'ai oublié un chiffre ou tout ça. Attends, 11 juin.
OK, 11 juin.
Désolé de...
Non, ça va.
Donc, 11 juin au 19 juillet, plusieurs villes des trois pays vont présenter des matchs. Faut noter là, que le tournoi cette année va être gigantesque par rapport aux dernières années. Avant, on avait 32 pays qui se qualifiaient. Cette année, il va en avoir 48, une augmentation de 50%, ce qui va faire un nombre record de 104 parties qui vont être disputées dans 16 villes différentes.
Les amateurs vont être servis.
Oui, on va en avoir en masse. Et puis, ben c'est ça. Là, au niveau des coûts, peut-être sans surprise, on apprend avec cet article du Globe and Mail que les budgets prévus sont largement dépassés. Et puis, si aux États-Unis, souvent, on fait appel au secteur privé puis aux commanditaires, nous, on a plus le réflexe d'aller voir nos gouvernements. Puis, il est un peu trop tard pour se retirer, donc il va falloir que les gouvernements mettent de l'argent là-dedans. Si on regarde les deux villes canadiennes, là, les principales qui offrent, qui vont avoir des matchs, Toronto et Vancouver, donc on s'attend là, à ce qu'ils dépensent les deux ensemble près de 1 milliard de dollars d'argent public pour avoir ces parties-là.
Ouais. C'est beaucoup de bidou, ça.
C'est énorme. Si je vais un peu plus dans le détail, le Vancouver, on avait estimé 240 millions pour la ville de Vancouver en 2022. On est rendu à 624 millions. Il y a eu de l'inflation, les coûts de sécurité, j'ai l'impression que ça, c'est toujours sous-estimé, puis on se rend compte que ça va coûter plus cher. un tournoi plus grand, puis aussi la FIFA, là, la Fédération internationale de football, l'association, donc l'organisation internationale qui chapeaute la Coupe du monde, a un paquet de demandes là, pour que les stades soient conformes et tout. Puis ça coûte toujours de l'argent d'adapter nos équipements sportifs là, aux, je serais tenté de dire aux caprices de la FIFA, mais à leur demande, disons. Donc, Vancouver, ils vont avoir 7 matchs, 624 millions, c'est presque 100 millions par match. C'est énorme. Ça, c'est la ville de Vancouver. Le gouvernement provincial va mettre un prêt de pas loin de 200 millions, 196 millions, parce qu'il faut, il va falloir améliorer le stade, puis le stade appartient à la province, donc c'est la province qui va mettre ça. Donc, on est à Vancouver, là, on est à 820 millions pour 7 matchs. À Vancouver, incluant la province. À Toronto, c'est un peu moins. On va avoir 6 parties. On dit que la ville va payer à peu près 380 millions. Mais ce qui est notable, c'est que c'est à peu près 10 fois plus que ce que le conseil municipal avait approuvé il y a 6 ans. Donc, encore une fois, explosion des coûts. Et puis, le stade, lui aussi, va avoir besoin d'amélioration. Mais là, le stade appartient à une compagnie privée, le Maple Leaf Sports and Entertainment, là, qui possède les Maple Leafs de Toronto, entre autres. Donc, ils vont mettre 23 millions. Mais la ville va quand même mettre un autre 124 millions pour améliorer le stade. Donc, c'est énorme comme pour avoir des matchs de foot. Là, pas qu'on n'aime pas le foot, mais c'est énorme. Puis en plus, on voudrait monétiser l'événement, peut-être avoir des commanditaires et tout. La FIFA est très stricte. Par exemple, le stade BMO à Toronto, ils vont avoir les matchs. Là, donc, BMO, je pense que ça veut dire Banque de Montréal. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom du stade de BMO qui correspond à un partenaire corporatif dans toutes les références aux matchs de soccer. Donc, il va falloir appeler ça, je ne sais pas, le stade de Toronto ou quelque chose. Donc, on n'a pas le droit de monétiser. Et puis, dans un rayon de 2 km, les commerces ne peuvent même pas annoncer, ils ne peuvent pas utiliser des mots comme la FIFA ou la Coupe du Monde, faire de la publicité, par exemple, sur un bar, présenter à la TV et télé les matchs. Donc, ils sont vraiment, on paye, mais je dis que ce n'est pas si facile de faire de l'argent avec ça.
Mm-hmm. Est-ce que la FIFA pour Fédération internationale de football association, aide les villes hôtesses?
Bien, c'est une bonne question. Aux États-Unis, elle donne 1 million à chacune des villes. Au Canada, on n'a pas encore entendu parler. Mais même si elle donnait 1 million, là, quand je vous parlais des coûts tout à l'heure, là, qui étaient dans les centaines de millions, ça ne ferait pas une grosse différence. Mais pendant ce temps-là, la FIFA, elle, se remplit des poches. On s'attend à vendre 7 millions de billets. Et puis les billets vont coûter très cher. Pour vous donner une idée, là, pour la partie finale, ça va coûter 8 680 $ américains pour un siège.
Oh, oui, oui.
C'est beaucoup plus cher que la Coupe du Monde de 2022 ou même n'importe quel événement qui a eu lieu aux Olympiques de Paris. Donc, la FIFA s'attend à avoir des revenus de 13 milliards avec, entre autres, les droits de télévision qui sont énormes. Là, le soccer est un sport international, donc on peut vendre les droits de rediffusion partout dans le monde. Il y a beaucoup de demandes pour ça. C'est peut-être le sport le plus populaire à l'échelle planétaire. Donc, la FIFA va collecter, elle. Et puis, donc, qu'est-ce qui nous reste? La FIFA estime, ça je suis extrêmement sceptique, là, qu'on va avoir des retombées économiques de 3,8 milliards pour le Canada. Laissez-moi en douter énormément. Puis pour vous donner une idée, là, depuis 1966, il y a seulement 2 Coupes du monde qui ont été rentables pour les pays hôtes, les 12 autres. Donc, il y en a eu 14 depuis, c'est aux 4 ans, depuis 1966. Les 12 autres ont fait des pertes. Donc,
c'est pas beaucoup, hein, 60 ans?
Non. Puis, il y a à Washington, il y a un institut qui s'appelle Institute on Taxation and Economic Policy. Ils ont estimé que le rendement pour les villes hôtesses des trois dernières coupes du monde, donc les trois dernières, étaient moins 31%. Donc, si on plaçait notre argent à moins 31%, on se retrouverait sur le pavé, ça ne serait pas là.
Et Montréal dans tout ça?
Bien, Montréal avait été pressenti dans l'offre initiale là, lorsqu'on avait les trois pays avaient présenté la candidature pour obtenir la Coupe du monde. Montréal faisait partie des villes pressenties pour avoir quatre matchs. On anticipait des retombées de 173 millions. Encore une fois, il ne faut pas trop creuser pour voir que ce n'est pas ça. Mais en 2021, on est en pleine COVID. Ça coûtait cher au gouvernement provincial parce que le financement devait venir de la ville et du gouvernement provincial. Mais en 2021, le gouvernement avait d'autres chats à fouetter. Comme on dit, là, on avait la COVID qui s'est retirée du projet. Alors, la ville ne voulait pas assumer, la ville de Montréal ne voulait pas assumer seule le coût d'accueillir l'événement, puis elle s'est retirée. Déjà, on appréhendait des passements de coûts importants. Pour chiffrer, en 2018, le provincial s'était engagé à donner 50 millions. Puis en 2021, quand il s'est retiré, déjà, la facture avait gonflé à 103 millions. Puis la ville devait mettre 79 millions. Quand on regarde ce qui s'est passé à Toronto et Vancouver, comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense qu'on l'a échappé belle. Ça nous aurait coûté pas mal cher pour avoir ces quatre matchs-là. Puis à l'époque, lorsque le gouvernement ou la ville a décidé d'annuler l'événement, M. Coderre, qui était le maire sortant, là, donc l'administration Plante avait décidé d'annuler. M. Coderre a été extrêmement critique. Lui, il aime les grands événements sportifs. Je pense que l'administration Plante avait pris la bonne décision là, quand on regarde les dépassements de coûts. Jamais on serait rentré dans notre argent. On est mieux de le regarder à la télé. Puis ceux qui en ont les moyens, ben, ils se déplaceront à Toronto et Vancouver puis en ont des vacances. Mais nous, on pourrait les écouter gratuitement à la télé.
Du 11 juin au 19 juillet 2026. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine.
On se donne rendez-vous pour le Super Bowl et ou les Olympiques dans les deux prochaines semaines.
Absolument. Allez-vous être devant votre petit écran en fin de semaine pour le Super Bowl?
Ben oui, ça c'est un incontournable à chaque année. Les traditions du Super Bowl, je pense que évidemment je ne suis pas le seul. Là, entre amis, on s'arrange pour écouter le match.
Ah oui, c'est un événement. Puis vendredi, ben, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va avoir de quoi s'occuper. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
From the middle of a dream, you and I were driving down Montreal streets with the stereo blasting music from the 90s. You turned those memories into something ugly with your words, but it hurts to know. You still broke it. If I saw your face in the middle of a crowd, not sure what I would tell you, what I could say out loud. But I've been trying to find you in places where we used to hang out. You went and changed us from friends to strangers with your words, but it hurts to know. If I knocked on your door, it wouldn't open.
but you still broke it.
À partir de demain, le 4 février, Amitélé diffuse Toucher, une série documentaire qui s'attaque à un sujet encore tabou, la sexualité des personnes en situation de handicap. Et pour en parler, j'accueille avec grand plaisir, elle est en studio, la réalisatrice de la série. Elle s'appelle Vanessa Boisset. Bonjour Vanessa.
Bonjour, enchantée.
Moi aussi. Vanessa, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser la série Toucher, d'aborder un sujet très sensible, aussi sensible que la sexualité des personnes en situation de handicap?
Bien, parce que c'est un angle mort dans la société. On parle d'inclusion à plusieurs niveaux, mais on n'aborde jamais l'enjeu de la sexualité ou de la vie intime de ces personnes-là comme si c'était un besoin secondaire, en fait, alors que ça ne devrait pas.
Et l'idée a jailli comment?
En fait, l'idée de faire la série, c'est la production qu'il a eue. Après, de la conceptualiser, puis de lui donner cette forme-là, ça a été pour moi une évidence qu'il fallait le faire en donnant la parole aux protagonistes, en fait, aux personnes concernées, que ce soit ceux qui, et celles qui ont recours à l'assistance sexuelle et aux travailleuses du sexe.
Et le titre de la série est très évocateur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot « toucher » Est-ce que c'est vous qui avez trouvé le titre d'abord?
Oui.
Oui?
Oui. Puis pour moi, ça rappelle le sens du toucher, mais aussi ce besoin, c'était pour montrer aussi que, oui, on parle de travailleuses du sexe qui offrent leur service d'accompagnement sexuel, mais ça va au-delà de ça, ce qu'elles offrent. C'est une proximité, c'est un contact humain, donc un toucher, le toucher de l'autre, le toucher... de découvrir son propre corps. Et ben, on ne peut pas ne pas être touché en écoutant ces témoignages-là.
Titre extrêmement bien choisi. Et quand on regarde, j'ai regardé un épisode, j'ai été très touchée justement. Et on s'attache vite au protagoniste. Marc-Olivier est absolument sympathique et attachant. Et un des préjugés les plus tenaces, c'est l'idée que le handicap efface le désir, comme si les personnes en situation de handicap n'avaient pas de désir, n'avaient pas de libido. Est-ce que vous avez aussi voulu déconstruire cette perception?
Oui, oui, ça c'était la prémisse. C'est pour ça que c'est le premier épisode. C'était d'abord d'attaquer de front ce préjugé-là que les personnes en situation de handicap sont asexuées. Puis aller plus loin par la suite au fil des épisodes pour démontrer qu'il y a plusieurs enjeux qui soient sociaux, légaux, qui nourrissent ou qui contribuent à entretenir ce stéréotype-là.
Vous avez donné la parole à 6 adultes au parcours très, très différent. Comment vous les avez trouvés, ces adultes-là? Parce qu'il faut quand même les convaincre de se dévoiler d'une façon assez intime là, devant les téléspectateurs, téléspectatrices éventuellement.
Mais on a, pour faire le casting, on avait publicisé, en fait, mis des annonces qu'on cherchait des témoignages. Et puis ça n'a pas été si difficile de les convaincre, en fait. Il y avait vraiment ce besoin et ce cri du cœur de vouloir prendre la parole et qu'enfin le sujet soit mis en lumière. Et même quand je leur parlais d'aller jusque dans la chambre à coucher avec beaucoup de respect et sans voyeurisme, je pense qu'il y a eu une forme de délivrance. J'ai pas eu de frein par rapport à ça. J'ai tout de suite, dès la première pré-entrevue et rencontre avec eux...
De toute façon, vous n'auriez pas insisté si vous aviez
Exactement. Ça a été fait dans le respect. Puis, au contraire, l'idée a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et je pense... ça répondait à leurs besoins.
Oui. Alors, vous avez su établir le lien de confiance. Dans le premier épisode, on fait la connaissance, comme je le disais tantôt, de Marc-Olivier. Mais qui sont les autres personnes qui participent à la série?
On a une jeune femme, Joanie Marica. On a un homme qui est tombé en... qui a eu un accident de voiture et qui s'est retrouvé paraplégique par la suite à 49 ans.
Qui, lui, avait eu une vie sexuelle active avant de devenir paraplégique.
Exactement, donc à 49 ans. Puis donc Sébastien, qui est en région en plus. Ensuite, on a aussi Alec, qui est un jeune également, mais dont les parents prennent aussi beaucoup de place dans l'épisode parce que c'est les parents qui l'accompagnent à travers ce processus-là.
Mais qui ne sont pas dans la chambre à coucher quand même.
Non, mais ils l'accompagnent quand même pour le déposer jusqu'au lit.
OK.
Parce qu'il a une dystrophie musculaire qui fait que pour le placer même dans le lit de la travailleuse du sexe et le déshabiller partiellement, c'est les parents qui l'aident.
Oui. Mm-hmm. Il a besoin d'assistance et d'assistance sexuelle. Alors, l'assistance sexuelle, bon, parce que la série aborde le recours à l'assistance sexuelle, c'est quoi exactement?
En fait, c'est un service fourni, offert par les travailleuses du sexe qui permet à ces personnes-là d'avoir une intimité, qu'elle soit sexuelle, c'est-à-dire avec pénétration, mais ça va bien plus que ça. Mm-hmm. Ça va bien au-delà de ça. C'est aussi un échange, une conversation, une proximité, des caresses, la découverte de son propre corps, parce que la plupart de ces personnes-là n'ont jamais été touchées.
Intimement.
Exactement. Ils connaissent la manipulation médicale, parce que leur corps est souvent manipulé.
Un toucher professionnel.
Exactement, depuis leur plus tendre enfance. Et d'ailleurs, ça peut poser des enjeux, en particulier pour les femmes, pour la notion de consentement. Et donc là, ça leur permet de découvrir ce qui est un toucher plus sensuel, mm-hmm. plus sexuel.
Des caresses, quoi.
Oui.
Et chaque épisode est enrichi par l'intervention de spécialistes en droit, en santé, en éthique. Pourquoi?
Parce que c'est un sujet qui est controversé et qui est illégal d'avoir recours à ces services-là. Et donc, d'avoir le regard et un éclairage scientifique, pour nous, c'est important pour montrer que ce n'est pas juste des opinions et un vécu personnel. Ça va au-delà de ça. Il y a vraiment des bienfaits qui sont reconnus à travers ces services-là. Les proches peuvent en témoigner, mais les experts le voient aussi médicalement, psychologiquement. Ça fait du bien, ça va dans le bien-être de la personne dans sa vie au quotidien. Dans l'épisode, on n'a pas parlé, mais il y a Tristan dans l'épisode 5 qui nous le dit, c'est sa bouffée d'oxygène quand il a des recours à l'assistance sexuelle. Il souffre de dépression en plus de son handicap très sévère et il le dit, ces rendez-vous-là sont plus qu'attendus, c'est un cadeau de Noël qui se fait.
Mais l'épisode 5 qui s'intitule « Tomber en amour avec son assistante sexuelle », j'allais dire, il y a ce danger-là ou ce risque-là de tomber en amour, mais ça peut être un beau risque quand c'est réciproque, oui, mais si c'est à sens unique...
Oui, mais c'est ce que nous disent les spécialistes, c'est que c'est un risque qu'il y a dans toute relation thérapeutique. On peut tomber en amour avec son thérapeute, avec son physiothérapeute également. Et c'est que comme nous l'explique très bien Tristan justement dans cet épisode, c'est que quand on est dans le manque et très isolé de ce contact-là, de cette affection-là, c'est plus facile de tomber dans l'excès par la suite.
Dans l'excès?
De tomber amoureux, dans cet excès d'affection, de se dire « enfin quelqu'un me prête de l'attention, enfin quelqu'un s'occupe de moi ».
Quelquefois, on peut interpréter ça comme de l'amour, puis ça n'en est pas vraiment. Au fil du temps, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement ça. Là.
Exactement.
Alors, je rappelle que je suis avec la réalisatrice de la série documentaire Touchée, qui prend l'affiche d'Amis Télé demain soir à compter de 21h. Hein, parce que cette série-là, j'allais dire, c'est pas nécessairement pour toute la famille.
Non, c'est pour ça que c'est à 21h. C'est que même si c'est sans voyeurisme et sans sensationnalisme, on a des scènes plus intimes.
Alors, ça s'adresse à un public adulte, la réalisatrice qui s'appelle Vanessa Boisset. Et Vanessa, au Canada, l'assistance sexuelle demeure illégale, contrairement à certains pays européens. Et comme réalisatrice, est-ce que vous aviez l'intention de provoquer un débat de société avec Touché?
Oui. Ouais. Dans l'épisode 6, on a un discours beaucoup plus militant pour justement ouvrir ce débat-là. Pour montrer que ça se fait ailleurs. On parle beaucoup dans cet épisode, d'ailleurs, à la fin de la série. On aborde de ce qui se fait ailleurs et voir comment le Québec et le Canada en particulier, parce que c'est une loi fédérale, peut s'en inspirer, en fait.
On envoie des assistantes sexuelles dans votre série. Elles ont accepté de participer, même si elles travaillent dans l'illégalité. C'est comme un risque qu'elles prenaient.
Oui, mais en fait, le fait de vendre ces services n'est pas illégal. Il y a une loi d'exception pour les travailleuses du sexe quand elles ne sont pas sous exploitation, ce qui est le cas dans notre série. Il y a vraiment, elles sont toutes consentantes et femmes d'affaires.
Oui.
Mais c'est le client qui est à risque. Qui est illégal, en fait. C'est d'acheter le service qui est illégal.
D'accord, mais le client qui a participé à votre série, j'espère que la police ne l'attend pas dans le détour.
Faudrait, comme dirait le père d'Alec, faudrait être bien zélé pour aller leur causer des ennuis.
Oui. Alors, cette série-là, dans votre cœur, parce que, bon, vous êtes une réalisatrice de métier, quelle place elle occupe dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie?
Oh, elle m'a occupée beaucoup.
Oui. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous allez retenir?
Ben, de prendre conscience à quel point, je savais qu'il y avait un angle mort, mais de réaliser et d'être face vraiment à cette réalité de tous les obstacles que ces personnes ont pour pouvoir rencontrer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le service d'assistance sexuelle n'est pas une finalité en soi. C'est que souvent, ces gens-là, ils ont recours à ce service-là à défaut d'autre chose, mm-hmm. et en attendant de trouver une relation stable et une vraie relation amoureuse.
Parce que ça, c'est possible aussi.
Oui, c'est possible. Et on le dit d'ailleurs dans la série, ce n'est pas toutes les personnes en situation de handicap qui ont recours à l'assistance sexuelle. Il y en a certains qui ont des vies de couple très, très épanouies ou des vies amoureuses très épanouies.
Est-ce qu'il y a des exemples dans votre série de ça,
oui.
de cette réalité-là?
Oui, dans l'épisode 3, Sébastien justement nous explique, suite à son accident, il a eu recours à l'assistance sexuelle juste en transition pour réinventer sa sexualité, pour reprendre confiance en lui suite à son accident et que maintenant il est fiancé. Il a rencontré une femme et cette étape-là a été nécessaire pour réapprivoiser son corps aussi. Puis dans l'épisode 6, Eric est également en couple, mais avec une personne en situation de handicap. Mm-hmm. Donc lui, il a recours à l'assistance sexuelle avec l'accord de sa conjointe parce que leur handicap mutuel fait qu'ils ne peuvent pas avoir
de rapport sexuel. Et puis de son côté, à elle, est-ce qu'elle a recours aussi à un assistant sexuel?
Non, elle n'a pas les mêmes
besoins.
Ou... C'est ça.
Alors, c'est une série à découvrir. Je rappelle que c'est sur Ami Télé. Chaque épisode est diffusé les mercredis à 21h et elle est enrichie par l'éclairage de spécialistes. J'en parlais avec la réalisatrice. Elle s'appelle Vanessa Boisset. Est-ce que vous pensez faire une suite à cette série?
Je ne le sais pas.
Vous êtes ouverte à ça. Vous avez aimé l'expérience.
Oui, j'ai vraiment aimé.
Ben, merci beaucoup d'être venue nous visiter pour parler de cette série importante, Vanessa Boisset.
Merci.
Bon succès.
Merci.
Après la pause, on écoute la chanson Le rêve du pêcheur avec Laurent Voulzy. Et ce sera la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
D'océan à l'océan.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Thank you.
Merci pour cette belle musique apaisante. Et là-dessus, on s'en va joindre Anne-Marie Aubin pour sa chronique livre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Deux romans graphiques aujourd'hui, à commencer par « De l'or dans les fissures ».
Oui, c'est deux livres qui sont des récits de reconstruction pleins d'espoir et de lumière que je propose à ce milieu d'hiver, peut-être, là. De l'or dans les fissures, c'est un roman graphique dans la collection Griffes chez Isatis qui propose toujours des livres d'actualité sur des sujets qui sont peu traités. Dans ce cas-ci, c'est la dépression. Alors, l'autrice Catherine Martin, dans ce cas-là, a écrit et illustré pour une première fois son livre. Elle a déjà publié d'autres titres illustrés par quelqu'un d'autre. Et là, c'est lancé le défi de tout illustrer. Donc, on commence dans le sombre, dans le noir, dans le gris, puis on va tranquillement vers les dernières pages du livre dans des illustrations plus lumineuses avec un peu de jaune, de or. Alors, de quoi il s'agit? D'une adolescente qui voit sa vie sombrer dans la dépression. Elle vit avec sa famille qui tente de comprendre ce qui lui arrive. À l'école, rien ne va plus. Alors, elle va suivre une thérapie pour essayer de se sortir de là. Mais la fissure fait référence en exergue à une chanson de Leonard Cohen qui dit « Il y a une fissure dans toute chose et c'est ainsi qu'entre la lumière. » Donc, mm-hmm. C'est une manière réaliste de raconter ce qui lui arrive, mais aussi d'une manière métaphorique. Parce que elle va recevoir son frère pour manger avec lui, puis elle lui dit « Écoute, je suis une ruine. L'autre fois, j'ai voulu prendre mon café, je l'ai échappé. La tasse s'est brisée. Je sens plus pourquoi j'existe et tout ça. » Son frère l'amène au restaurant. Ils commencent à déjeuner ensemble et il va volontairement laisser sa tasse de café tomber par terre et se briser. Et là, il va lui montrer des photos de son voyage au Japon, où là-bas, il y a une tradition qui s'appelle le kintsugi. Kintsugi, ça veut dire or, de l'or, et sugi, ça veut dire réparer. Et il explique que là-bas, il y a un art qui s'appelle le kintsugi, qui consiste à réparer de la porcelaine qui est brisée en saupoudrant une espèce de laque avec des petits morceaux d'or dans les fissures, finalement, d'où le titre du livre, « De l'or dans les fissures ». Et il lui explique qu'il y a des choses dans la vie qui sont remplaçables rapidement, puis c'est pas grave. Exemple, la dame lui apporte une deuxième tasse de café. Mais dis-toi, t'es quelqu'un qui doit se réparer. Fait que donc, cette image très forte est ce qui permet à cette fille de se sortir de sa dépression tranquillement. Ça se fait pas d'une façon magique, mais elle pense toujours à cette métaphore du kintsugi qui est une espèce de message d'espoir et de grande puissance. Et puis, on dit que c'est l'art de réparer. Donc, elle va avec son psychologue tenter de se ramasser, reprendre en main. Puis, il va lui dire, faut que tu retournes à l'école, mais avant, pour pas avoir un trop gros choc, tu vas aller dans des endroits publics. Alors, elle se dit, bon, ben je vais aller à l'épicerie, c'est un début. Puis là, il y a beaucoup de monde, elle panique un peu. Et puis, elle pleure devant des concerts de pois chiches. Puis là, elle rit d'elle-même. Ben, vraiment, c'est stupide de pleurer devant des pois chiches. Puis, elle va dédramatiser toute la chose. Alors, c'est un très beau livre qui aborde le sujet d'une façon réaliste. Et puis, bon, ben elle va tranquillement essayer de remonter la pente. Elle va aller chercher un chat au refuge. Elle va s'acheter des livres. Et à la fin, il y a un dossier très intéressant qui donne des informations sur c'est quoi ça, faire une dépression, puis quelle adresse existe, qu'est-ce qu'on peut consulter si ça nous arrive, si on constate aussi que quelqu'un autour de nous a des symptômes. Alors, c'est bien fait, comme tous les livres qui sont faits chez Griffes d'ailleurs. Et puis, ça s'adresse aux adolescents, mais je dirais aux adultes aussi, qui pourraient reconnaître les symptômes de leur adolescent en lisant le livre.
De l'or dans les fissures par Catherine Martin, qui signe les textes et qui a fait les illustrations. C'est dans la collection Griffes aux éditions Isatis. Et on passe maintenant à un livre qui a un autre beau titre, Fleurs de verre par Eve Patnaud.
Oui, aux éditions XYZ dans la collection Quai numéro 5. On dit chez l'éditeur que ça s'adresse aux 10-14 ans, mais encore là, c'est un texte qui s'adresse à tous et qui fait beaucoup réfléchir. Alors, Ève Patnaud de Vie à Montréal, c'est une autrice, illustratrice, qui est réviseur linguistique et qui travaille dans l'édition, semble-t-il. Et elle a publié déjà d'autres titres, elle a illustré, pardon, d'autres titres écrits par exemple, Simon Boulris, Papier Bulle, Le plus petit sauveur du monde de Samuel Larochelle, pour lequel elle a eu le prix du gouverneur général pour les illustrations en 2023. Alors, de quoi il s'agit? D'une jeune fille qui s'appelle Théa, qui est une adolescente et qui est malade au lit. Elle est médicamentée. Elle souffre d'une espèce de langueur, c'est ce qu'on comprend. Et l'atmosphère est très bien rendue par les illustrations, les couleurs. On sent vraiment que c'est une personne qui est en convalescence. Alors, les parents, ça, c'est là qui est original, vont faire l'acquisition d'un robot, un automate, qui est la copie conforme de leur fille et qui, elle, va aller chercher des expériences, des observations en allant au musée, en sortant dehors dans la nature. Et ça s'enregistre dans le robot, on peut dire ça, qu'elle va transmettre ensuite à Théa, la jeune fille qui est malade au lit, pendant son sommeil profond la nuit, à l'aide d'un fil qui se branche dans son oreille, derrière son oreille, à elle et à la jeune fille. Alors, on est vraiment dans de la science-fiction, mais il y a des liens quand même avec la réalité là-dedans. Alors, elle a deux consignes, l'automate. Elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec Théa, donc aller la voir seulement quand elle est dans le sommeil profond. Et ça, il y a un signe qu'elle reçoit là, quand elle peut y aller, là, c'est parce qu'elle elle dort profondément puis elle ne la verra pas. Et l'autre consigne, c'est qu'elle doit répondre si on lui pose une question. Alors donc, chaque soir, après avoir exploré tout la nature et tout ça, l'automate va s'asseoir dans le couloir près de la chambre de Théa et attend qu'elle passe en phase sommeil profond. Une fois qu'elle reçoit le signal, elle va se rendre dans sa chambre, elle trouve parmi ses médicaments le fameux fil dans le petit tiroir et elle va la brancher, faire le transfert de données. Ça se fait en moins d'une minute, 30 secondes. Et là, les souvenirs de sa journée sont implantés dans son corps à la jeune fille, dans sa mémoire. C'est artificiel, mais on dit que c'est ça qui va meubler son existence parce que ses parents trouvent qu'elle a une existence vide. Alors, je cite, « Les souvenirs implantés sont comme des fleurs de verre que Théa peut contempler à loisir. Elles sont artificielles, c'est sûr, mais il paraît qu'elles imitent vraiment les vraies fleurs. » Et d'où vient cette idée de récit à travers les fleurs de verre? C'est que l'autrice raconte à la fin qu'elle a été visitée à l'Université Harvard à Boston, une exposition de fleurs qui ont été faites en verre au 19e siècle et début du 20e par Léopold et Rudolf Blaschka, qui enseignait avec ces spécimens-là la botanique. Et il y en aurait 4000. Et ça a l'air, c'est à s'y méprendre tellement ça imite bien. Alors, je suis allée voir sur le site et effectivement, c'est hallucinant de voir combien ça ressemble à des vraies fleurs. Donc, l'idée, elle, ça l'a inspirée à imaginer quelqu'un qui serait semblable à une autre humaine, c'est-à-dire l'automate, et qu'est-ce que c'est que ça pourrait faire, en fait? Là, on est entre la vérité, le mensonge, le réel, l'irréel, la fiction, la science-fiction. Et puis, bon, ben tout ça va bien, mais un jour, elle se rend compte qu'elle a du mal à transférer les données parce que la jeune fille malade au lit a décidé que ce soir-là, elle ne se couchait pas, puis elle lisait jusqu'à l'aube. Alors là, tout est défait, là. Et tout ça nous est raconté à travers l'automate qui écrit ses souvenirs, ses aventures. Et le livre est imprimé comme si c'était un journal intime, écrit avec une calligraphie manuelle, plein de dessins, de fleurs, d'insectes partout. Et toujours ces deux jeunes filles identiques, doubles, comme en miroir, qui vont peu à peu, finalement, se distinguer. Parce qu'elle va se rendre compte qu'à mesure que le temps passe, elle va avoir du mal à transférer les données. Comme si son système, à elle, était englué. Puis bon, ben, elle se dit, je pense que je ne peux plus faire ça. Puis là, les parents vont être inquiets aussi. Puis là, tout va changer à partir de là, parce que Théa choisit de lire dans son lit, choisit de vivre. Et elle va lui dire, je cite, « J'aime les choses toutes simples, comme me plonger dans un roman ou admirer les nuages par la fenêtre. Je veux pouvoir m'en souvenir. Je préfère vivre des jours vides, mais vrais, que des aventures excitantes qui sont fausses. » Alors là, ça peut amener une belle discussion sur le faux, le vrai, ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Et elle va choisir de vivre une vie qui, pour les autres, peut sembler vide, mais pour elle, c'est la sienne. Alors, elle va ouvrir les portes de sa chambre et va sortir de nuit dans le jardin, accompagnée de son automate. Et là, on décrit la nuit, les lucioles, la vie qu'il y a la nuit, les rainettes, les lumières nocturnes des insectes. Bref, c'est comme le jour et la nuit, ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas. Il y a toute une dualité dans ce récit-là qui peut nous faire réfléchir aussi jusqu'à quel point un jour on va peut-être nous insérer des données dans le crâne comme ça de force. On peut imaginer plein de choses finalement. Bref, un très beau livre en format cartonné cousu qui a quand même une centaine de pages et puis qui raconte une histoire qui est à peine fantastique, qui est tout près de... On peut faire des liens vraiment avec ce que l'intelligence artificielle peut faire, ce qui est faux, ce qui est vrai. Je trouve que c'est un beau livre à offrir à quelqu'un. Puis aussi, sur la maladie, les gens qui sont faibles, qui vont s'en sortir tranquillement et qui vont à leur rythme et à qui on ne doit pas imposer des choses. Il faut être à l'écoute de ce que l'on vit de notre corps. C'est très bien illustré, c'est lumineux. C'est un livre qui est dans les tons de pastel, très, très blanc.
Le Devoir qualifie l'iconographie romantique délicieusement surannée.
Ah, voilà, c'est ça. Effectivement, comme quelque chose de romantique, je dirais.
Oui.
Ouais. Alors, moi, j'ai bien aimé ça et je pense que ça peut faire l'objet de belles discussions avec nos ados, tant le premier, De l'or dans les fissures, et que l'autre, parce que finalement, on dit que nos ados souffrent beaucoup d'anxiété de plus en plus, ben je pense que c'est une belle façon d'aborder le sujet. Et puis aussi de discuter de cette façon de voir le monde et de s'affirmer malgré les faiblesses qu'on peut vivre au cours de notre vie. Voilà.
À découvrir, Fleurs au pluriel, Fleurs de verre, c'est publié dans la collection Quai numéro 5 aux éditions XYZ. Eve Patnaud signe le texte et a créé aussi les illustrations. Anne-Marie oui. Aubin, un grand merci. Encore une fois, ça a été passionnant. On se retrouve mardi prochain.
Oui, au revoir, merci.
Sa fin, il coule dans les ports des souterrains. Emporte avec lui frissons jurons, les longues nuits, les caleçons longs. Nous nous collerons tous les deux, désormais pour nos beaux yeux. Nous nous trouverons une voiture. Exceptionnel. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil. Puis je te refilerai le volant chassant. Thank you.
C'était Charlotte Cardin qui chantait et reprenait une chanson de Daniel Bélanger, n'importe où. Fou n'importe où.
Ouais.
C'est comme moi en ce moment. Il me manquait quelques mots dans ma phrase.
Accompagné par CRI.
Oui, effectivement.
Oui. Pour la première fois de son histoire, la Colombie-Britannique accueillera les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada destinés aux athlètes ayant un handicap intellectuel qui se dérouleront à Kelowna en 2028. En 2014, Vancouver avait tenu les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada. La ville recevra environ 1300 athlètes et entraîneurs qui s'affronteront dans 8 disciplines sportives d'hiver du 28 février au 4 mars 2028. Le curling, le patinage artistique et de vitesse, le ski alpin et de fond, les 5 quilles, la raquette, le hockey intérieur ainsi que le floorball. L'événement servira également de tremplin qualificatif pour l'équipe canadienne en vue des Jeux mondiaux d'hiver 2029 qui se tiendront en Suisse où des concurrents de plus de 100 pays seront en compétition. Le thème de cette édition est « Libérer le potentiel des athlètes, inspirer les générations » et se veut une célébration puissante de l'inclusion, de la détermination et de la communauté laissant un héritage qui inspirera les prochaines générations. Pour Cassidy Rutledge, l'excitation est palpable. L'athlète de raquette et championne du monde en dynamophilie est particulièrement heureuse de concourir dans sa propre ville. Je connais bien la région et j'habite à environ 5 minutes de l'endroit où je vais compétitionner. C'est donc assez excitant. Et j'ajouterais très pratique. Je suis impatiente de faire découvrir ma ville à différents athlètes canadiens afin de leur montrer ce dont nous sommes capables. Même son de cloche du côté d'Ethan Sun, un multi-athlète qui participe à l'épreuve de curling aux Olympiques spéciaux depuis environ une décennie. C'est ma passion, dit-il. Il espère remporter les honneurs dans sa ville de résidence. Le maire de Kelowna, Tom Diaz, s'attend à des retombées économiques oscillant entre 5 et 7 millions de dollars pour cet événement. Ce dernier souhaite que la diversité à l'honneur dans cette compétition rayonne à travers la communauté. Selon lui, cela signifie davantage d'achats locaux, de location de chambres d'hôtel, de visites au restaurant pendant une période de l'année où les visiteurs habituels ne viennent pas autant à Kelowna, parce que ce n'est pas l'été. Lisanne Ballantyne, PDG de Tourisme Kelowna, anticipe la location de 4000 nuitées générées par la compétition. La ville a récemment accueilli les Canadian Country Music Awards en septembre et elle va recevoir la Coupe Memorial en mai, en plus de 2 matchs des BC Lions et des Jeux d'été de la Colombie-Britannique en 2026. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est une direction que nous prenons pour apporter une prospérité économique à notre communauté, indique le maire Tom Diaz. Alors voilà pour les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux à Canada qui vont se dérouler en 2028 du 28 février au 4 mars. Pas là hier. Je ne sais pas si vous avez parlé de marmotte, Mathieu? Oui? Bon, alors, je ne vais pas en parler. Je vais parler quand même du maraudeur Marc-Antoine Decoy qui annonce sa retraite des Alouettes. Le maraudeur québécois a annoncé lundi sa retraite des Alouettes de Montréal. La formation a convoqué une conférence de presse mardi à 11h au Stade olympique pour officialiser sa décision. Donc aujourd'hui, la direction des Oiseaux disposait d'une marge de manœuvre très étroite sous le plafond salarial afin de compléter son effectif en vue de la saison 2026 de la Ligue canadienne de football. Et il semblait de plus en plus évident que certains joueurs allaient devoir accepter des concessions salariales ou encore carrément quitter le nid. De quoi faisait partie de ces joueurs pris entre l'arbre et l'écorce. Le principal intéressé a cependant laissé entendre que sa santé avait joué un rôle dans sa décision d'accrocher ses épaulettes. « c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous espère demain à compter de 9h30. Merci Mathieu Tessier, ici Hélène Denis. Bonne journée.